France Culture.
Les nuits de France Culture.
Quand on pense à la musicalité de la poésie, nos esprits se portent quasi automatiquement, comme par réflexe, vers les formes les plus traditionnelles. N'importe quel schéma de rime classique, que les rimes soient embrassées, continues, croisées ou plates, donne une musicalité indéniable à un poème, quelle que soit sa qualité intrinsèque. Au niveau des vers eux-mêmes, un alexandrin respectant les règles de l'art aura toujours un rythme parfait, une cadence reconnaissable parmi mille. Mais la poésie moderne, ou le vers libre, l'absence de rime, voire la prose, sont des occurrences communes, n'a pas pour autant perdu toute sa musicalité. Elle est parfois cachée, complexe, et tapie dans des jeux d'homéothélote, d'assonance et d'allitération, malgré la disposition parfois fantasque du texte sur la page. Difficile de savoir si ces poètes modernes ont un rapport à la musique qui a également changé, ou si cette approche novatrice est détachée de tout changement culturel externe. Pourtant, ce numéro d'Opus nous donne l'occasion de comprendre le rapport à la musique de l'un des plus éminents poètes français de cette deuxième moitié du XXe siècle, en la personne de Jacques Roubaud. Pianiste dans son enfance, condamné par une blessure à la main droite d'abandonner sa pratique musicale, il a un rapport double à la musique. Sentimental d'abord, la musique lui évoquant des moments de son enfance ou ses premiers émois. Poétique ensuite, dans la mesure où la musique sert à l'isoler du monde extérieur, quand il porte sa plume sur son papier pour composer ses vers. On retrouve donc les mélodies de Mozart, Beethoven, Schubert, Purcell, mais aussi Brian Eno, dans une émission de Christian Rosset réalisée par Virginie Vincienne et diffusée pour la première fois le 5 octobre 1996 sur France Culture.
Né en 1932, Jacques Roubaud s'est imposé, depuis une trentaine d'années, comme un des poètes majeurs de sa génération. Non seulement par ses livres de poésie, édités chez Gallimard, qui ne sont pas simplement des recueils, mais des projets originaux. Il ne refait jamais deux fois le même livre. Mais aussi par sa réflexion théorique sur le vers, qui l'a conduit à travailler sur les structures formelles de la poésie des troubadours, sur le vieillissement de l'alexandrin dans la langue française. Tout état de poésie, d'antan ou d'aujourd'hui, du Japon à l'Amérique du Nord, enrichissant sa pratique quasi quotidienne de poète habité par la langue, hanté par la mémoire. Son œuvre en prose est abondante. Quelques romans témoignent de son engagement dans les travaux collectifs de l'Oulipo, ouvroir de littérature potentielle fondé par Raymond Queneau et François Le Lyonnais, où il sera le compagnon, entre autres, de Georges Perec et d'Italo Calvino. Mais son grand ouvrage en prose, un récit avec incises et bifurcations de plusieurs milliers de pages, se construit sur les ruines d'un projet rêvé il y a longtemps, sous le titre « Le Grand Incendie de Londres ». Projet largement autobiographique qui prend en charge l'impossibilité de se raconter de façon linéaire. Roubaud est un conteur, méditatif, qui vit dans le deuil des arts de la mémoire, ce qui le rend d'autant plus actif. La mélancolie qui en résulte étant sans cesse combattue par la pratique de cet art. La poésie, qui continue à être dans une société qui la repousse sans cesse dans des marges. À la fin d'un de ses livres importants, L'invention du fils de Léo Prépèce, Jacques Roubaud écrit « La poésie qui mérite ce nom est mémoire, est mémorable, ne peut avoir de sens qu'en une mémoire. La chute de la mémoire marque la chute de la poésie. La chute de la poésie est un signe de la maladie du monde. » Dans les livres de Jacques Roubaud, poésie ou prose, la musique est peu nommée. Mais dans sa vie, elle tient un grand rôle. L'entretien a eu lieu chez son ami Pierre Luçon, mathématicien et musicien, avec qui, régulièrement, il bâtit une théorie du rythme, travail essentiel à la compréhension de ces deux pratiques, poésie et musique, de ce qui les unit et de ce qui les oppose. Jacques Roubaud, quels ont été vos premiers contacts avec la musique ?
C'était un contact par disque. Et c'était des disques de... selon le système très ancien, c'est-à-dire des disques que l'on mettait sur le phonographe, hein, qui passaient avec une aiguille et qui ne duraient pas très longtemps. Une face de disque faisait à peine 2-3 minutes. Donc mes parents avaient une collection comme ça de disques et... ils mettaient de la musique en corrigeant leur copie, puis ils étaient professeurs. Et nous, les enfants, on écoutait ça, on entendait ça. Alors, il y avait deux types de musique. Il y avait du Mozart, il y avait du Beethoven, il y avait des premiers enregistrements de clavecin de Wanda Landowska, je m'en souviens de ça, assez nettement. Et puis par ailleurs, il y avait aussi des... disons, du blues des années 20, hein, des choses des années 20, des chansons anglaises ou américaines des années 20, et un peu de jazz. Donc tout ça faisait le background musical. Autant que je me souviens, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de musique à la maison. Et puis, il y avait la musique qu'on jouait. Ma mère jouait du piano et donc avait tenu à ce que ses enfants jouent du piano. Donc, nous allions toutes les semaines à Toulouse. Nous habitions à Carcassonne. Nous allions une fois par semaine à Toulouse, passer la journée pour prendre des leçons avec quelqu'un qui était une personne importante dans la musique de piano de l'époque, qui s'appelait Madeleine Long. Et elle avait des écoles comme ça dans toute la France. Et une de ses élèves était mon professeur de piano de ma sœur et de moi-même. Donc il y avait la musique de piano, donc le jeu du piano, apprendre à jouer du piano, jouer des petites choses. Hein, presque un peu de Chopin quand même. Et donc c'est ça, hein, cette ambiance-là et ce choix esthétique-là. Qu'est-ce qu'on entend là ?
Le silence.
Ouais. Oh là là. Non, j'ai pas joué ça. Avance.
Je vais celle que j'ai envie de jouer.
Mais je te dis, ça c'est pas ça.
Je passe.
Non.
Donc je passe.
Baisse un petit peu. Bon, ça j'ai entendu, enfin du moins j'ai le souvenir d'avoir entendu ça dans les Corbières en 1943. Et en plus, quand je l'ai entendu, j'étais furieux. C'est pour ça que je m'en souviens bien, parce que c'était une grande maison d'amis de mes parents, des amis anarchistes espagnols de mes parents, qui en était venu dans les Corbières. Donc c'était le mois de septembre 1943, et le matin je venais lire une chose passionnante qui était Trois hommes dans un bateau de Jérôme Cajeron, et il y avait là quelqu'un qui descendait aussi le matin pour jouer du piano et jouer ce genre de choses, et ça me dérangeait beaucoup. Et c'était Vladimir Yankelevitch qui était là. Et effectivement, c'est quelque chose qui restitue. Bon, au fond, je l'écoutais pas vraiment, puisque ça me dérangeait. Mais en fait, je l'ai entendu et retenu parce qu'il le jouait beaucoup. Il s'entraînait. Il préférait généralement jouer des nocturnes. Il les a même commentés. Mais je me souviens très nettement au moins de ça. Et c'est resté. C'est resté, ça me restitue d'une façon, je dirais presque enfin, d'une façon visuellement extrêmement précise l'endroit.
La musique peut restituer du visuel.
C'est-à-dire, dans mon cas, le souvenir est surtout visuel. Je vois des images et je n'entends pas. Enfin, en ce moment, j'entends ça et je vois, mais je n'entends pas réellement ce qui est en train d'être joué dans la scène que je revois. Donc j'ai un mode de restitution du passé qui est quand même surtout centré sur le visuel. Le rôle tout à fait essentiel du son, et particulièrement de la musique, étant d'ouvrir le moment du passé. Je suppose que c'est différent pour d'autres personnes, mais pour moi ça se passe tout à fait comme ça, et c'est très intense.
Quel niveau êtes-vous parvenu dans cette pratique du piano ? Est-ce que vous avez espéré à un moment donné en faire, par exemple, un métier ou une vraie pratique ?
Non, moi j'aimais bien jouer. Je jouais convenablement, mais pas de manière transcendante. Absolument pas. Et j'ai commencé à jouer assez tôt, avec un piano qui était faux. Donc j'entendais, en fait, il avait, je pense, oh là là, ça devait être un ton et demi au-dessus de... Et j'entendais pendant très longtemps, j'identifiais toutes les musiques, un ton et demi au-dessus. Bon. Mais j'ai quand même joué beaucoup, et j'ai continué à jouer du piano quand nous sommes venus dans la région parisienne, particulièrement à Saint-Germain-en-Laye. Et puis là, à l'âge de 14 ans, j'ai eu un accident à la main, assez sérieux. Je suis rentré dans une glace d'armoire qui m'a entamé considérablement la main droite. Et qui a mis fin à ma pratique du piano. Je n'ai jamais pu jouer. De toute façon, je ne pourrais pas, mais j'aurais pu à la rigueur me reconvertir vers le concerto pour la main gauche, mais ça n'a point été possible. Et en plus, je ne pouvais plus voir un piano en peinture, si je puis dire. C'était quasiment impossible. Et même, pendant très longtemps, écouter de la musique de piano. En fait, ça a probablement favorisé un certain goût pour reprendre la maîtrise de la main pour faire autre chose, c'est-à-dire écrire.
Il y a un lien entre justement ce désir d'écrire de la poésie et le fait d'avoir fait de la musique ou d'avoir été dans un environnement de musique.
C'est difficile à saisir de manière très précise, mais il est très probable que l'envie de composer de la poésie, pour moi, est extraordinairement ancienne, même si pendant de très très nombreuses années, c'était de la poésie tout à fait inintéressante que je composais pendant très très longtemps. Mais j'ai toujours eu envie de composer de la poésie, et il est clair que les moments où je composais cette poésie quand j'étais enfant, dans ma tête, c'était des moments de musique. Les moments de musique, parce que c'était les moments les plus tranquilles. On était dans la pièce du bas, une espèce de bureau, et il y avait l'appareil qui jouait. C'était ponctué par le geste que je vois encore de mon père, évitant que l'aiguille ne continue à tourner. Il fallait absolument l'arrêter, ça n'arrêtait pas tout seul. Donc il fallait, évitant que ça gratte. J'entends vraiment encore assez nettement ce moment-là. Donc c'était des toutes petites plages de musique. Et pendant ces moments-là, il n'y avait pas de bruit. Les enfants n'avaient pas le droit de faire de bruit, de se battre, de se taper dessus, de faire tomber les chaises. Nous étions tout à fait tranquilles. C'était des moments de concentration intense. Pour moi, la concentration intense, qui est la chose qui est indispensable pour la composition de la poésie, en fait, et qui fait donc intervenir l'agencement des mots dans la tête, bien avant le moment où on le mettra sur le papier, cette concentration intense est liée à la musique. Ah oui, du clavecin bien tempéré par Wanda Landowska, ça c'est quelque chose que j'ai joué. Et j'ai joué ça j'ai joué ça vers 43. Évidemment, beaucoup moins vite, avec beaucoup plus de difficultés. Et là, c'est pareil, ça produit, mais d'une manière très très nette, la vision du lieu, le piano, la position sur le piano, que j'ai l'impression d'avoir oublié, enfin le tabouret du piano, le piano, la musique placée devant moi, et la fenêtre à gauche, où entre le soleil de l'après-midi. Alors, c'est typique parce que c'est une musique que je ne peux pas solliciter moi-même. Hein. Et d'ailleurs, c'est mieux, car le pouvoir de mise en mémoire, enfin non, de restitution du souvenir, s'émousse facilement. Et si ce sont des musiques que l'on connaît tellement que l'on peut les évoquer, ben ça va disparaître. Au contraire, les résultats les plus forts, ce sont pour les musiques qui vous viennent dans la tête sans qu'on y pense. Ce que je pourrais appeler un effet particulier de la musique.
C'était pas si mal.
Qui est de servir de déclencheur au souvenir. Pour appeler ça la musique comme effecteur de mémoire. Alors, c'est pas nécessairement d'ailleurs de la musique à laquelle j'adhérerais fortement de manière esthétique ou même émotionnelle. C'est simplement que certaines phrases musicales, assez courtes phrases musicales, ont un pouvoir très fort pour restituer très violemment un moment du passé. Avec ce moment du passé, généralement, vient une sorte de climat d'émotion. Et dans le cas des quelques musiques qui sont capables d'être évoquées de cette façon, ça peut jouer un rôle très important pour la mise en condition de la composition. Bon, disons, c'est toujours essentiellement de la musique instrumentale, pour moi. La musique instrumentale. Et c'est de la musique instrumentale qui est liée à une période finalement assez ancienne. Je ne s'y ajoute pas énormément de musique plus récente pour ce rôle très particulier. Il faut que la musique de ce type travaille et agisse sur la mémoire d'une façon qu'elle mette en jeu des choses anciennes. Alors là, bien évidemment, c'est lié à ce que je disais précédemment, il y a quelques morceaux de clavecin de Bach. Il y a ça, il y a un peu de Schubert au piano, Schubert infiniment mélancolique, sentimental, et dont on se demande parfois pourquoi on trouve ça si extraordinaire, et il est difficile d'y résister. Et puis, quatuor de Beethoven, quatuor de Mozart.
Est-ce que vous écoutez beaucoup de musique volontairement, ou est-ce que vous écoutez la musique qui passe là où vous êtes, là où elle est?
C'est, voyons, quantitativement, vraisemblablement, pas beaucoup. Mais ce que je pourrais dire, c'est que d'une part, ça dépend des périodes et ça dépend de l'intention qu'il y a derrière l'écoute de la musique. Bon, par exemple, pendant les années 70, j'ai écouté énormément de musique instrumentale, allant grosso modo jusqu'au fils de Jean-Sébastien Bach. Musique de clavier, musique d'orgue, orgue français, des choses tout comme ça. Énormément, vraiment énormément. C'était une sorte de terrain musical propre qui, pour moi, était lié à une période de grande concentration dans le travail. Donc c'était lié à ça. Ensuite, pendant des années, je n'écoutais plus rien. Et puis, bon, ça recommence à d'autres moments, mais il y a d'autres musiques que celles-là qui peuvent m'occuper pas mal, mais alors avec d'autres fonctions. La fonction, je dirais, la fonction d'isolant. Une musique isolante, c'est une musique qu'on écoute pendant qu'on travaille, pour travailler, mais à laquelle on ne porte pas une attention considérable. On ne l'écoute pas pour être pénétré profondément affecté par cette musique. Elle sert à vous séparer des bruits extérieurs. Alors, curieusement, je ne connais pas bien la musique contemporaine, mais la musique contemporaine m'a beaucoup servi à ça. Enfin, contemporaine, d'ailleurs, c'est beaucoup dire, parce que maintenant, ce sont quasiment des classiques, mais qui pouvaient être considérés comme des contemporains pour moi il y a 30 ans. Bon, donc, Schoenberg, Webern, des choses comme ça. Bon, bien entendu, ce n'est pas n'importe quelle musique contemporaine, c'est une musique contemporaine sévèrement construite. Et je pense que le fait d'une sévère construction peut jouer ce rôle d'isolant.
Thank you.
l'extrême opposé de ça, il y a des musiques qui peuvent être isolantes, en disant, en n'étant pas trop difficile, en étant reposante. Bon, pour prendre un exemple tout à fait typique, il m'est arrivé de passer de mettre pendant des journées à la suite l'Arte del Violino de Locatelli, qui n'est pas une musique dont je me demande même si je la reconnaîtrais. C'est pas mal, hein, ce n'est pas une musique que je trouve médiocre, hein, c'est une musique raisonnablement bonne, mais qui à la fois n'est pas contraignante du point de vue de la pénétration intellectuelle et n'est pas non plus émotionnellement très attirante. Et puis, le dernier type de musique qui m'est arrivé d'écouter beaucoup, ça serait, je dirais, des musiques qui vous isolent dans des moments difficiles, non pas pour travailler, mais pour atténuer les difficultés de l'existence.
Consolatrice, presque.
Presque. Tout en est... Oui. Alors, c'est curieux, les musiques consolatrices, pour moi, c'est beaucoup Schubert, alors que elle vous... en même temps, elle vous désespère. Mais en face, elle est très... c'est très consolateur. Je ne sais pas pourquoi.
J'ai l'impression que vous n'écoutez que de la musique instrumentale, alors que vous êtes écrivain, poète. Est-ce que vous vous intéressez aussi au rôle des mots et du texte dans la musique ?
Entre la musique instrumentale et la place des mots et du texte dans la musique, il y a de la musique vocale pour laquelle le rôle des mots n'est pas immédiatement important. Bon. J'ai jamais cherché vraiment à suivre ce qui était dit dans une cantate de Bach ou à quelques rares exceptions dans la musique de Purcell, sauf s'il s'agissait d'un poète important comme Dryden. Mais l'endroit où la musique, pour moi, rencontre la poésie, c'est bien évidemment la musique des troubadours. Alors, cette musique des troubadours, il y a là une sorte de paradoxe. J'y suis extraordinairement sensible. Mais en même temps, j'ai énormément de mal à entendre les enregistrements qui existent de cette musique des troubadours. Bon, ça tient. Il y a des raisons qu'on peut comprendre, c'est-à-dire que pendant très longtemps, les interprètes avaient tendance à chanter cette musique un tout petit peu comme on chante des leads, des leaders. Bon, et c'est pas ça qu'il faut faire. Les exigences pour arriver à un résultat de ce genre sont évidemment terribles, puisqu'il faut quand même posséder cette langue qui est quasiment perdue. Il faut avoir une pénétration de la musique elle-même qui n'est pas vraiment notée. Et donc il faut inventer la façon de la restituer. Et puis il faut avoir la voix qui va avec ça. Tout ça est très très difficile. Alors ça, c'est une des très belles mélodies de troubadour qui n'est pas par un des troubadours, disons, les plus prestigieux. C'est quelqu'un qui a été un jongleur, qui est ensuite devenu troubadour, qui s'appelle Peyrol, et qui est peut-être probablement un musicien plus inventif qu'un poète extraordinaire. C'est évidemment difficile de réaliser le meilleur équilibre entre les deux. Alors, en même temps, c'est un exemple favorable en ce sens qu'il y a relativement... Il y a relativement pas trop de problèmes dans la restitution rythmique. Bon, alors là, c'est cette chanson qui est chantée par Gérard Levotte. Bon, Gérard Levotte connaît bien le texte. Il a beaucoup étudié cette musique. Nous l'avons étudié ensemble du point de vue rythmique. Nous avons fait des lectures rythmiques avec Pierre Luçon et lui de différents chants de troubadour. Donc c'est parmi les exécutions qui pour moi sont les plus intéressantes.
Une question que je me pose vraiment à propos des troubadours qui étaient auteurs en même temps de la musique et du texte. Je me demande si tout ça... est-ce qu'il y avait quand même, malgré tout, un ordre? Est-ce qu'on le sait? Ou est-ce que ces deux domaines arrivent en même temps comme une sorte de fusion qui paraît très maintenant presque idéale? Enfin, personne ne fait plus de musique comme ça, pratiquement, maintenant.
Ah bah, c'est un peu quand même le même principe qu'on retrouvait à l'époque moderne, les auteurs-compositeurs, comme Brassens ou comme Bobby Lapointe. Il y en a d'autres, même dans une large mesure traînée. Hein. Bon, c'est le même principe. Donc, ils conçoivent la musique et le texte en même temps. Pour les troubadours, c'est tout à fait essentiel, d'autant plus que la musique, pour eux, joue un rôle d'unification de la chanson, puisque... il n'est pas possible de réellement déterminer l'ordre, par exemple, des strophes du poème par ce qui est dit. Hein, ce sont des variations qui sont plutôt de nature rythmique, et que la musique étant reprise dans chaque strophe sert de support et d'unification à l'ensemble du poème. Pour eux, l'inspiration vient ensemble, et ils ne cessent de le répéter. Hein. Marc Abru a fait les mots et la musique, écoutez ce qu'il a dit, enfin, et en même temps, il revendique la paternité de la mélodie, au moins autant que celle des paroles. C'est un exemple qui est unique dans la si on le regarde depuis la tradition de la poésie d'un côté et de la musique dans les langues occidentales, mais qui est en fait une chose tout à fait naturelle dans toutes les... disons, tous les rapports poésie-musique traditionnels. Simplement, il se trouve que là, en plus, c'est savant. C'est extrêmement savant, visiblement à la fois du point de vue musical et du point de vue poétique. À la poésie n'est pas, aujourd'hui, pour moi en tout cas, réellement associée de musique. La voix, oui, mais c'est de la voix qui dit la langue, qui l'a dit à sa manière, avec quelque chose qui est particulier, comme disons, variation d'intonation, variation rythmique, timbre, et même gestuel, mais c'est pas de la musique.
On peut vraiment apprécier ce que nous venons d'entendre si on n'a pas la maîtrise de la langue?
Non. Non. À mon avis, non. C'est pas fait pour être entendu en tant que musique seule. Absolument pas. Ce n'est pas Schubert qu'on peut entendre, même si on ne connaît pas le poème de Heine. Ben, bien sûr, on gagne beaucoup si on connaît le poème de Heine, donc on gagne beaucoup si on connaît l'allemand. Bon. Mais c'est pas la même chose. Là vraiment, c'est inséparable. Mmh.
définissez non plus maintenant comme poète, mais comme compositeur de poésie. Je crois aussi de poésie et de mathématiques, ce qui fait toujours un effet, j'imagine, saisissant sur vos auditeurs quand vous passez à la radio. On se demande qu'est-ce que c'est un compositeur de poésie, de mathématiques. Mais je voulais réfléchir sur ce mot compositeur qui me semble intéressant et qu'on associe le plus souvent au travail d'écriture musicale.
Alors, une petite remarque préliminaire, c'est que les choses changent dans le temps. Je ne suis plus un compositeur de mathématiques. Ça fait un bon moment. Je suis un retraité des mathématiques. Donc, je ne peux plus guère m'affirmer compositeur de poésie et de mathématiques. Je l'ai été un moment, surtout d'ailleurs de poésie plus que de mathématiques. Mais enfin, les deux allaient ensemble. Mais maintenant, si j'emploie toujours la même expression, compositeur de poésie. Alors, bien entendu, le fait d'employer le mot « compositeur » évoque nécessairement la musique. Et je ne saisis pas vraiment, puisque je n'ai pas continué des études musicales, je n'ai pas continué à jouer, je n'ai pas fait des études, disons, musicologiques, et je n'ai pas regardé comment était la composition musicale. Donc, quand j'emploie le mot « composition », c'est au fond une idée peut-être pas très bien réfléchie, un peu vague, de ce qu'est un compositeur. Et au fond, je vois un petit peu la fabrication de poésie comme ça, c'est-à-dire prendre des matériaux qui sont aussi des matériaux sonores, et puis les agencer, donc les modes d'agencement, au fond, dans une vision presque idéale, je les verrais comme étant travaillés avec la même liberté qui, je le pense, est celle des grands musiciens.
Je me souviens vous avoir vu il y a assez longtemps avec quelqu'un comme Jérôme Rottenberg et vous avez traduit avec Laurence Delay les poésies des Indiens d'Amérique du Nord. Il y avait dans la pratique de Jérôme Rottenberg un aspect incantatoire, quelque chose d'extrêmement immédiat, enfin comme ça, qui faisait penser à une tradition qui serait aussi bien musicale que poétique. C'est quelque chose que vous recherchez et que vous écoutez volontiers.
Oui, moins éloigné que la tradition des troubadours, donc, qui quand même n'a guère dépassé le XIIIe ou le XIVe siècle. Il y avait, au siècle dernier encore, des traditions à la fois savantes et disons populaires, unissant non seulement la musique avec la poésie, mais aussi avec la danse et le rituel, qui étaient celles des Amérindiens, des tribus indiennes de l'Amérique du Nord. Et il se trouve qu'il y a eu, à la fin du siècle, une expérience tout à fait extraordinaire d'enregistrement par Francis Densmore de ses musiques. Et c'est à partir de choses de ce genre que Jerome Rothenberg avait commencé à travailler et à essayer de transposer dans sa propre pratique cette situation-là. Alors là, bien entendu, pour apprécier un type de poésie de ce genre, il faut être là. Alors, on peut dire, Il faut être là, ça limite nécessairement l'auditoire. C'est moins vrai maintenant, grâce au progrès aussi technique. La vidéo rend tout à fait possible la participation, peut-être moins évidente, moins forte que la participation d'un auditoire quand le poète est là, mais c'est quand même possible. Alors, c'est pas vraiment musical, encore une fois. C'est à la fois une rupture et en même temps, si c'est une rupture, on peut dire que c'est un affaiblissement. Mais c'est aussi un progrès, hein, c'est le progrès de l'acquisition d'une certaine spécificité, hein, c'est la division du travail esthétique. Rothenberg, comme les autres poètes qui s'inspirent de pratiques de ce genre, ne sont pas musiciens.
Teeth to the henny like keeps winning in my wooden finger understate the battler overstate the run call it veteration but on time.
À propos de performance et de votre goût pour ce genre de pratique, vous avez un intérêt pour la poésie et la musique américaine. Je pense que vous êtes intéressé aussi bien à John Cage qu'à des compositeurs beaucoup plus jeunes et plus récents.
Oui, bien sûr. Bien sûr, probablement parce que le mouvement contemporain de la musique américaine, au moins une de ses branches, dont Cage représente un exemple, a été beaucoup lié à la poésie américaine contemporaine.
Cage est un compositeur qui a été un étudiant en art plastique, je crois, qui a fait la peinture dans sa jeunesse et qui en a refait à la fin, et qui a écrit des livres, au départ, de textes qui étaient des textes sur la musique, puis petit à petit, c'est devenu très très proche de ce qu'on peut appeler, ou ce que vous appelez la poésie. Est-ce que cet exemple d'échange entre plusieurs pratiques vous semble convaincant? Ou est-ce que pour vous, les performances de Cage disant ces poèmes, c'est un musicien qui, avant tout?
Alors il y a deux aspects différents. Il est clair que quand il fait de la performance de sa poésie, on sent très, très nettement qu'il s'agit d'un musicien. Bon, mais ceci dit, c'est un poète. Et il a écrit, c'est un des poètes importants de la tradition poétique américaine contemporaine. Alors en ce sens, il est deux choses. Hein. Il est à la fois musicien et poète. Et bon, sa poésie est de la poésie. Quand il compose des poèmes, bon, il les fait avec tout ce qu'il pense et toute sa formation musicale, mais ça devient de la poésie et il n'y a plus réellement de musique dedans.
Alors c'est drôle parce que ça serait finalement les héritiers de l'esprit des troubadours, Cage et certains de ses compatriotes qui travaillent dans ce sens-là, alors que chez nous en Europe c'est beaucoup plus rare, alors qu'il s'agit de notre origine culturelle fondamentale.
Ce n'est pas faux. Je pense que c'est aussi une chose de ce genre est quand même associée au fait que la poésie contemporaine des États-Unis a pendant un certain nombre d'années été fortement marquée par l'influence d'Ezra Pound et que Ezra Pound a été décisif pour la compréhension du phénomène des troubadours infiniment plus chez les poètes américains des années 60-70 que chez les poètes européens, pour qui les troubadours n'existaient pas.
seeing the beauty of was fucked rheumatics for the doom. Golf there on heat and soca's hard labor through priests me a danum was shop cause off like closed and got nick sleeps sizzin cock eye clean pill blank checks took up a mind that I did take a turn.
Eh bien, je vais chanter la première strophe d'une chanson que j'ai composé pour figurer dans un roman qui s'appelle L'Enlèvement d'Hortense. Alors, comme c'est une chanson, il fallait de la musique. Mais comme je ne suis pas compositeur de musique, j'ai utilisé du Wolfgang Amadeus Mozart, Köchel 331, premier mouvement, rondo. La Linzer Torte dans la mer morte prend une teinte caramel. Mais en Alsace, c'est la potasse qui lui donne la couleur miel. C'est pas beau?
On peut modifier les...
Ça va comme ça ou on
peut reprendre? Je crois que c'était très bien.
Oui, très bien. Mais il y a la suite des paroles. Alors,
Une strophe suffit. Hein.
Ça fait pas une strophe, ça fait deux vers.
Oui, parce qu'il y a 14 couplets. Hein,
il y a 14 couplets.
Mais alors, ça a été une expérience de performance de poésie, performance de littérature de ma part la plus honteuse. Parce que, à la suite de la traduction allemande de ce roman, j'ai été invité à Hambourg pour faire une lecture. Alors, la lecture, je lisais des passages en français, et puis quelqu'un, un jeune homme qu'on m'avait présenté, lisait en allemand. Et je lui dis, dans ce passage-là, je vais chanter sur l'air de... Il me dit, sur quelle musique? Je lui dis, Köchel 331, Mozart, bon, il connaissait. Donc, je vais chanter le couplet et vous chanterez dans la traduction allemande. Mais ce salaud, ce qu'il ne m'avait pas dit, c'est qu'il était un chanteur. J'avais un air fin après. un des intérêts, précisément, de la musique, pour moi, c'est cette possibilité de la musique comique, même de la musique que j'aime beaucoup, traitée de manière comique. Par ailleurs, j'aime aussi beaucoup la musique qui a des effets drôles, tout en souvent étant associée, bien entendu, à de la parole. Comme je suis assez anglomane, j'aime énormément les opéras de Gilbert and Sullivan. Gilbert et Sullivan, Gilbert and Sullivan. Ils sont contemporains pratiquement d'Offenbach et qui jouent un peu, pour la tradition anglaise, un peu le même rôle. Sauf que peut-être c'est encore plus populaire et plus apprécié, au moins jusqu'aux dernières années, par le public anglais. J'ai vu avec beaucoup de plaisir, en lisant le compte-rendu d'une biographie récente de Samuel Beckett, qu'il était un passionné de Gilbert and Sullivan. Ce qui fait que je pourrais, suivant la tradition d'Alphonse Allais, dire, moi je suis un type dans le genre de Samuel Beckett, j'aime Gilbert and Sullivan.
Subject,
Écoutez aussi, je crois, les musiques d'environnement, ça vous intéresse. Plusieurs fois, vous m'aviez cité quelqu'un comme Brian Eno.
La musique d'aéroport de Brian Eno, par exemple, oui, ou des musiques de ce genre. oui, comment dire, là, c'est peut-être pas que j'ai une passion particulière pour cette musique, mais je l'entends avec beaucoup d'intérêt. Et puis surtout, je pense qu'il peut exister une des manières qu'aurait la poésie de se maintenir dans le monde contemporain consisterait à jouer aussi une carte de ce genre, c'est-à-dire répondre à des demandes. Moi, je ferais volontiers des poèmes pour l'aéroport, enfin, si j'en avais les commandes. La commande. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle Loulipo et qui répond à un certain type de commandes, comme le font d'ailleurs les artistes, plasticiens. Qui consiste à mettre des textes dans les environnements. Nous avons travaillé pour le tramway de Strasbourg, par exemple, et nous venons de terminer une commande, qui est exactement cela, une commande pour mettre des textes sur le mur de la nouvelle bibliothèque de l'Université Paris 8. Bon, je pense que la musique peut avoir ce type de commande, et au fond, la poésie aussi. Et bon, l'exemple des musiques d'aéroport est un très bon exemple. Le seul problème, c'est évidemment que la poésie n'est rarement sollicitée pour faire ça.
Une appréhension très simple du rythme, c'est ce qui ferait danser, c'est ce qui. On parle même dans des. Si c'est lent, est-ce que ça serait d'une certaine manière le point commun ou le dénominateur commun donc, entre l'écriture, ce que vous pratiquez vous, Jacques Roubaud, et puis le travail des musiciens, que ce soit le travail des compositeurs ou la façon dont vous écoutez la musique?
C'est certainement le cas. Du moins dans la conception que j'en ai. Ceci dit, il faut faire une réserve, c'est-à-dire que le mot de rythme est un mot qui couvre énormément de choses, en général peu précises. Donc il a un champ d'application très très vaste. Et le contenu essentiel de ce que je peux dire là, en dehors d'une tentative d'entrer dans la technique de la chose, qui à mon avis excède largement une discussion orale, c'est qu'il y a une façon, appuyée sur des nombres, appuyée sur de la mathématique, de restreindre et appuyée aussi sur une idée qu'on peut qualifier plus généralement de philosophique, de définir la notion de rythme comme une combinatoire d'éléments nettement séparés, d'éléments discrets. Il y a une façon de faire cela qui permet d'aborder, il me semble, de manière assez commune, le travail poétique et le travail musical. Mais si on n'entre pas dans une précision de ce genre, alors on reste dans le vague.
Est-ce que ça voudrait dire que si les poètes et les compositeurs doivent collaborer, ils doivent avoir presque comme base des structures rythmiques ou quelque chose de cet ordre avant tout?
Alors, c'est une stratégie qui est possible. Ce n'est certainement pas la seule, parce qu'on peut parfaitement très bien collaborer de manière intuitive. C'est tout à fait évident. On peut faire plusieurs choses. On peut dégager des descriptions analytiques, par exemple, de la musique, en partie arbitraire, et les transposer dans le domaine poétique. On peut faire le contraire. Mais bien entendu, je serais tenté de penser que quelque chose de particulièrement riche pourrait provenir d'une sorte, disons, d'union assez réfléchie et assez travaillée d'une abstraction d'une construction poétique avec une abstraction d'un contenu musical, les deux pouvant se renforcer, se ressembler ou s'opposer.
Quelque chose de terrible pour les gens quand on leur dit que la musique peut être combinatoire et utiliser les nombres. Pour la poésie, ça semble entendu, mais tel que c'est après la petite école du style compter de 1 jusqu'à 12 et puis ça s'arrête là. D'une certaine façon, cette approche-là risque de donner une idée de la poésie qui n'est pas du tout l'idée que se fait la société.
C'est vrai. Et vous dites que c'est plus facile à mettre dans le cadre de la poésie? Probablement pas. Dans la mesure où compter de 1 jusqu'à 12, par exemple, pour la poésie traditionnelle française, c'est un alexandrin, c'est dire exactement rien de ce qu'est la construction rythmique profonde, et même quels sont les nombres qui interviennent dans la prosodie traditionnelle. Et aussi, ça ne permet pas de voir comment des nombres peuvent intervenir dans la poésie la plus contemporaine. Donc, je crois qu'il y a une difficulté très sérieuse dans cette conception et de la musique et de la poésie, et surtout dans l'idée que l'on pourrait trouver quelque chose de commun, disons, dans la construction combinatoire de textes poétiques et de textes musicaux. Qu'il y a quelque chose qui est peut-être plus abstrait, qui d'ailleurs pourrait excéder aussi et le domaine de la poésie et le domaine de la musique pour s'appliquer à d'autres domaines, et que, auquel on pourrait donner aussi, de façon plus restreinte, le nom de rythme. Cette idée-là est très difficile à admettre et en général n'est pas écoutée. L'expérience montre que c'est absolument inaudible et chez les poètes et chez les musiciens.
Pour composer, il faut aimer jouer avec les nombres. C'est presque impératif.
Disons que quand on compose, on joue avec les nombres. Ceci dit, on peut ne pas le savoir. Dans les musiques ou des poésies traditionnelles, on joue avec les nombres d'une manière qui est donnée par cette tradition. Elle a été inscrite dans la tradition, et par conséquent, quelqu'un qui hérite de cette tradition jouera spontanément avec ses manières de traiter les nombres. Dans une composition qui serait une composition contemporaine, on peut très bien jouer avec le nombre sans le savoir. Bon, je pense que ce n'est pas mauvais parfois de jouer en le sachant, mais on peut très bien aussi jouer sans le savoir.
Il y a eu donc les musiques d'aéroport de Brian Eno, mais vous avez eu un concept qui est intéressant à propos des musiques répétitives et notamment de Steve Rash, l'idée de musique et de redon.
L'idée de la musique et de redon, c'est que c'est une musique qui va être rassurante. Et un des effets importants de la répétition, c'est précisément d'amener quelque chose qui est rassurant. Ça ne va pas vous endormir nécessairement, parce qu'une fois qu'on est endormi, on ne peut plus être rassuré. Il faut donc que ça soit une musique qui ne va pas jusqu'à l'endormissement, mais qui est dans un état préparatoire à l'endormissement, dans lequel l'attention va être retardée. Un des rôles, d'ailleurs, de la répétition dans ces musiques-là, chez les meilleurs, disons, donc Steve Reich, je prends cet exemple, c'est précisément de retarder, de donner à sentir, évidemment, la répétition, mais de retarder le moment où cette répétition sera tellement exclusive qu'elle vous emmènera dans le sommeil, qu'elle sera du type mouton. Du type saut de mouton.
Moi, j'ai été frappé, vous avez fait de la poésie qu'on peut dire aussi répétitive, en reprenant avec une combinatoire très simple, enfin les mêmes mots. Et ça m'a semblé être justement pas très rassurant comme matériau. Et même, je me souviens d'un poème qui commençait par « La lampe s'évapore » ou quelque chose comme ça, que vous pourriez peut-être lire, si ça se trouve ici. Comme étant quelque chose de finalement qui peut être assez inquiétant, en tous les cas profondément mélancolique.
Mais la musique édredon ou la poésie édredon peut être mélancolique. ça n'empêche pas. Dans le cas du poème dont vous parliez, c'était un des exemples de composition rythmique abstraite dont j'avais fait un certain nombre, précisément à la suite du travail que j'avais fait avec Pierre Leçon sur la notion de rythme. Et j'ai pris donc, me suis rapproché des variations minimales, de micro-variations. Dans ce poème, il y a un bloc de texte qui commence par la lampe s'évapore et dans lequel il y a un adverbe qui est lentement, qui se déplace lentement dans ce bloc, qui est répété 15 fois, avec simplement le déplacement de ce lentement. C'est, en poésie, typiquement, une des choses qui apparaissent dans ce que j'ai appelé la musique des Dredons. Et le principe était de donner quelque chose d'apaisant. Je ne sais pas si le résultat est celui-là, mais c'est ça. La lampe s'évapore dans le bas de rectangle, gauche, de miroir, s'emplisse de lumière, d'ailleurs, de gris et de blanc, d'une lumière, le rectangle de miroir, d'une lumière, de gris et de blanc, et le mur s'emplisse de la lampe, d'une lumière, lentement et d'ailleurs. La lampe s'évapore dans le bas de rectangle, gauche, de miroir, s'emplisse de lumière, d'ailleurs, de gris et de blanc, d'une lumière, le rectangle de miroir, d'une lumière, de gris et de blanc, et le mur s'emplisse de la lampe, lentement d'une lumière et d'ailleurs. La lampe s'évapore dans le bas de rectangle gauche de miroir, s'emplisse de lumière, d'ailleurs, de gris et de blanc, d'une lumière, le rectangle de miroir, d'une lumière, de gris et de blanc, et le mur s'emplisse lentement de la lampe, d'une lumière. Et d'ailleurs, la lampe s'évapore dans le bas de rectangle gauche de miroir, s'emplisse de lumière, d'ailleurs, de gris et de blanc. Beaucoup de, disons, d'écrivains ou de poètes qui, dans les années 50, avaient une sorte de fascination, de désir de libération des contraintes traditionnelles et qui rencontraient des difficultés à le faire, allaient chercher, au fond, une sorte d'aide dans le jazz. Pour les générations plus récentes, il est probable que, en effet, de la musique, disons, remontant déjà au XVIIe et au XVIe, je ne parle même pas de la musique médiévale, mais de la musique avant 1700, hein, avec la possibilité de l'entendre réellement, de rencontrer des gens qui réfléchissaient dessus et qui l'ont joué, a joué un rôle. Dans mon cas, par exemple, j'ai une grande fascination pour la viole de gambe, et donc, dès que j'ai pu entendre de la viole de gambe... et au fond, c'est pas si ancien, même pas très bien joué. Un des tout premiers disques que j'ai entendu, c'était les Fantaisies de Purcell, dans un disque Deutsche Grammophon archive. Je pense que je ne l'ai pas réécouté, mais c'est probablement assez... Pas, c'est pas ça, hein. Mais c'était quand même absolument fascinant.
Il y a aussi la question de la méditation. Vous avez écrit un certain nombre de méditations. Et moi, j'aurais tendance à relier aussi la pratique de la musique ou l'écoute de la musique à la méditation.
Bon, la pratique de la musique, pour moi, non. Elle est trop ancienne. Donc, je ne peux pas dire que quand j'ai pratiqué la musique dans les doigts, j'étais dans quelque chose qui peut se comparer à cet état-là. En revanche... Dans le cas aussi bien de la concentration nécessaire à la composition poétique, la contemplation par l'esprit de ce que l'on va mettre comme mot dans un poème peut se mettre en rapport, en pendant pour moi, tout à fait avec l'écoute de certaines musiques. Évidemment pas les musiques édredon, évidemment pas les musiques d'ameublement, évidemment pas les musiques isolantes, mais d'autres musiques... qui sont les plus importantes pour moi en tant que compositeur de poésie. Je pense par exemple aux fantaisies de Purcell, aux sonates pour violoncelle de seul de Bach, à du Webern, des choses comme ça. Donc là, j'ai besoin pour l'appréhension de cette musique, et chaque fois que je la réécoute, c'est pareil, d'une concentration qui amène une méditation. Et c'est tout à fait associé aux techniques propres de méditation telles qu'elles étaient développées dans la Renaissance.
Thank you.
il y a au moins un type de musique qui m'a beaucoup passionné, qui commence donc assez tôt et se poursuit au moins, en tout cas, au moins jusqu'aux variations Diabelli, et probablement ensuite, bah, ce sont les chaconnes et passacailles. Hein. Il y a un type de manière de composer, hein, ce type de musique-là, est tout à fait pour moi une musique de la mémoire. Je pense par exemple à l'Hexacordum Apollinis de Pachelbel, hein, qui est une des musiques que je préfère. C'est la première variation. Enfin, il n'y a pas encore de variation.
C'est le thème.
C'est le thème de l'Hexacordum Apollinis de Johann Pachelbel au clavecin. Alors, pour moi, c'est une très belle musique. Évidemment, je serais tenté de lui appliquer l'adjectif de sublime. Bon, la théorie du sublime est une théorie difficile. Donc je ne vais pas justifier mon appréciation. Il y a probablement des choses qui interviennent dans la circonstance de la composition, puisqu'il a écrit ça après la mort, par la peste de sa femme et de ses enfants. Mais de toute façon, même quand je l'ai entendu, je ne savais pas ça. Ce qui m'a toujours beaucoup frappé, et c'est comme ça dans les grands textes musicaux de cette espèce, c'est-à-dire que la méditation sur cette musique-là se produit d'autant mieux qu'on l'a déjà écoutée et qu'on revient en arrière. C'est après toutes les variations qu'on peut entendre la première, en fait. Et ça, je ne suis pas sûr, même dans les grandes... Bon, même dans les grandes chaconnes de Bach ou dans les grandes variations, dans les choses de l'offrande musicale, ou dans les grandes variations de Beethoven, il n'y a pas de manière, à mon sens, aussi absolue l'impossibilité d'entendre le premier morceau qui est infiniment simple sans avoir en mémoire toutes les autres. Et c'est en ce sens que, au-delà même du fait que le genre de la passacaille ou de la chaconne dans toute cette tradition qui s'est développée sur deux siècles et qui culmine au fond chez Bach, en dehors de ce fait-là même, certaines de ces chaconnes et passacailles ou de ces variations atteignent à une intensité méditative particulièrement forte et qui donc suscite chez celui qui les écoute l'état de méditation.
Variations sur des thèmes de Jacques Roubaud, par Christian Rosset, réalisation Maurice Biard, Virginie Vincienne. Musique, Mozart, Louis Armstrong, Chopin, Beethoven, Jean-Sébastien Bach, Schubert, Webern, Locatelli, Pérol, Guillaume de Machaut, Wilhelm Friedman Bach, Tacchini, musique et chant des Lakota Sioux, John Cage, Gilbert and Sullivan, Brian Eno, Conlon Nancarrow, Steve Reich, Christopher Tai, Henry Purcell, Diego Ortiz et Pachelbel.
C'était Opus, variation sur des thèmes de Jacques Roubaud, une émission de Christian Rosset réalisée par Virginie Vincienne et diffusée pour la première fois le 5 octobre 1996 sur France Culture.